Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger.
Monsieur le Président de la République, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans ce studio où nous accueillons ce soir.
Sans transition. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première émission de Sans transition qui vous sera présentée par
Thibaut
et Laure.
Le principe sera le suivant. Lors de chaque émission, nous vous proposerons des analyses éclectiques de sujets d'actualité à travers des interviews, des commentaires et des débats.
Nous donnerons la parole à des personnalités issues du monde politique, économique ou universitaire afin d'éclairer sans transition des thématiques issues de l'actualité.
Chaque interview sera suivie d'une rubrique humoristique animée par Sylvain qui conviera les grands de ce monde dans nos studios.
Nous vous offrons aujourd'hui une interview exclusive réalisée à quelques jours de la conférence de Copenhague.
Nous avons interrogé Noël Mamère, député vert et maire de Bègle, et Jean-Jacques Barberis, ancien élève de l'école et spécialiste des questions économiques touchant à l'environnement.
Et sans transition, l'imitation surprise de Sylvain viendra clore notre émission.
Et tout de suite, l'interview.
Alors bonjour Monsieur Mamère, bonjour Monsieur Barberis, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission de Transistor. On est très heureux de vous accueillir dans le micro. Donc vous venez nous parler du sommet de Copenhague qui s'ouvre dans 20 jours. Et Sauver le monde, c'est le titre de la conférence que vous venez donner ici. Donc entrons dans le vif du sujet avec une première question.
Copenhague est censé préparer l'après Kyoto. Le protocole de Kyoto n'a pas été ratifié par tous les pays et les résultats n'ont pas été très probants. Est-ce que le sommet de Copenhague part d'un bon pied pour sauver le monde?
Si l'on regarde l'état des engagements ou des non-engagements des grands pays les plus pollueurs dans ce monde, on est en droit de s'inquiéter sur les résultats de Copenhague. Il y a de fortes chances que nous soyons condamnés à assister à une sorte de Munich du climat, dans la mesure où les plus grands pays, les plus pollueurs, à commencer par les États-Unis, la Chine, ne sont pas prêts à accepter un protocole qui s'imposerait à l'ensemble des nations. Et donc, on entre dans une période de grand marchandage jusqu'au 7 décembre, mais tous les spécialistes qui observent avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe depuis le protocole de Kyoto sont effectivement en droit de se dire que nous allons sans doute assister à une forme de renoncement lié aux égoïsmes des grandes nations.
Peut-être, alors on peut considérer que pour le moment là on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que le protocole de Kyoto tel qu'il existe pour le moment, à l'heure actuelle on s'aperçoit que premièrement un certain nombre des pays signataires et qui l'ont ratifié ne tiennent pas déjà l'engagement qu'ils ont pris. Ça c'est un premier point. Seule l'Union européenne et de manière déjà assez limite, peut-on dire, devrait tenir son engagement sans recourir à des achats de crédits d'émission dans des pays comme la Russie ou la Pologne qui avaient été surcrédités en quota au moment de la signature de Kyoto. Donc concrètement à l'heure actuelle, comme le disait Noël Mamère à l'instant, si on fait le bilan des engagements d'atténuation qui sont pris à l'heure actuelle par les pays sur la table avant Copenhague, on n'est pas dans la trajectoire qui est proposée par le GIEC et qui serait compatible avec le constat scientifique. Donc concrètement à l'heure actuelle, on est dans une situation où avant même de commencer Copenhague, on est face à une situation où les engagements qui ont été annoncés ne sont pas suffisants.
Je rappelle que l'objectif qui a été fixé à Copenhague, c'est de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais 50% par rapport à nos engagements de 1990, ce qui veut dire en clair diviser par 4 notre production de gaz à émission, d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. On en est assez loin.
Et est-ce que vous pourriez nous citer 3 grands enjeux, selon vous, de la conférence, pour synthétiser en quelque sorte les grands... S'il y a justement des points...
Quand on regarde les négociations, à l'heure actuelle, les négociations, elles s'organisent selon ce qui avait été défini à Bali en 2007, c'est-à-dire une feuille d'action qui comportait 4 volets. Et on peut considérer qu'à l'heure actuelle, la négociation est aussi bloquée parce qu'aucun des volets n'avance, puisque tous se tiennent les uns par rapport aux autres. Concrètement, pour moi, un des enjeux fondamentaux à Copenhague, qui est lié évidemment avec les engagements de réduction d'émissions, ça reste la question du financement, qui est un sujet absolument fondamental pour débloquer les négociations et qui, pour le moment, peine à cristalliser dans les négociations au niveau technique.
Selon le patron du GIEC, un Indien qui s'appelle Pachauri, il faudrait consacrer 3% du PIB mondial à la lutte contre le réchauffement climatique. On en est très loin.
Et justement, les estimations de l'Agence internationale de l'énergie disent qu'il faudrait à peu près $10 500 milliards pour mettre en œuvre toutes les mesures qui devraient être prises pour faire face à ce réchauffement climatique. Est-ce que les États peuvent assumer ces dépenses-là ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, justement? Ou est-ce que c'est la priorité?
Jean-Jacques Barbieris peut répondre. En tout cas, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, elle dit autre chose de beaucoup plus important, enfin très important. C'est le fait que, elle l'a dit il y a une semaine de cela, que nos sociétés qui sont basées sur l'exploitation des ressources et des matières premières vont développer encore plus le charbon et les énergies qui sont les plus polluantes. Donc on ne s'oriente pas du tout vers ce qui est l'exigence de Copenhague. Et plutôt que l'Agence internationale de l'énergie, il faut écouter le rapport Stern, qui vous explique que si on n'agit pas maintenant, ça nous coûtera $5 000 milliards de dollars.
Mais ça, c'est la grande formule du rapport Stern, qui est vraiment que le coût de l'inaction est infiniment plus important que le coût de l'action, qui résume d'une certaine manière toute la thèse de Stern, qui est un élément fondamental. Sur les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, il faut juste garder en mémoire que quand on évoque ce genre de grands chiffres, la plupart du temps, ce n'est pas uniquement du financement public. Ça concerne aussi de l'investissement privé, qui doit être catalysé par le financement public. Si on tombe sur ce type de définition de financement strictement public, là, on est sur des montants inférieurs, mais qui restent extrêmement conséquents et qui sont importants. Pour mémoire, la Commission européenne en septembre a fait paraître une communication qui donnait des estimations des besoins de financement additionnels aux investissements privés qui étaient de l'ordre de 100 millions d'euros par an en 2020.
On a beaucoup dit que la conférence allait être polluée par des questions avant tout diplomatiques. L'Europe et les États-Unis, les deux leaders de la conférence, chercheraient chacun à imposer leur vue. Dans ce contexte, vaut-il mieux privilégier un accord international ou des accords bilatéraux ?
Il n'est pas question de sortir du multilatéralisme pour revenir dans le bilatéralisme. Ce qui fait la grande force de ce qu'on appelle, nous, la gouvernance mondiale, c'est justement de baser les relations internationales et les grandes décisions juridiques contraignantes sur une base multilatérale. Donc, revenir au bilatéralisme serait de la folie. Mais c'est précisément ce qui est peut-être en train de se passer après la visite de Barack Obama en Chine, où les États-Unis et la Chine ont finalement la prétention de nous imposer le calendrier de Copenhague.
D'un point de vue strictement économique, on ne peut pas faire du bilatéral ou sortir du multilatéral pour régler la question climatique. C'est impossible pour la simple et bonne raison, c'est le phénomène maintenant bien connu en économie de l'environnement, ce qu'on appelle les fuites de carbone, c'est-à-dire que si un pays prend un engagement de réduction des émissions et que les autres pays ne le font pas, on aboutira probablement à un effet nul sur la réduction des émissions au niveau agrégé, simplement parce que les entreprises, à moins qu'elles ne soient contraintes de ne pas délocaliser, mais si elles sont libres de le faire, iront délocaliser leur production polluante dans d'autres régions du monde. Donc on ne peut pas sortir du cadre multilatéral pour régler la question. Enfin, je pense que ça, d'un point de vue strictement technique, c'est un leurre d'imaginer qu'on peut sortir du multilatéralisme pour régler le problème.
Même si on aboutit à des accords un peu édulcorés par moments ou qui n'atteignent pas les objectifs qu'on devrait se poser.
Oui, mais le bilatéralisme est pire que le multilatéralisme avec des accords qui sont, comme vous dites, édulcorés. C'est quoi un accord bilatéral? C'est un accord entre la Chine et les États-Unis sur le dos de l'Europe et des pays émergents et des pays pauvres? C'est pas acceptable, et comme le dit Jean-Jacques Barbieris, c'est impossible aujourd'hui. On est arrivé à un niveau tel de crise climatique que le bilatéralisme n'est plus pertinent. Enfin, même c'est juridiquement impossible.
Pour l'architecture de l'accord, il y a quand même quelque chose qui est probablement, extrêmement problématique dans ce type d'initiative, c'est d'imaginer qu'on pourrait inventer une nouvelle catégorie de pays, c'est-à-dire non pas une catégorie de pays qui serait soumis à des engagements de réduction des émissions contraignants en droit international public, c'est-à-dire le protocole de Kyoto actuel, mais en fait, manifestement, on peut craindre qu'on crée une nouvelle catégorie qui serait en fait des pays qui prendraient des objectifs nationaux, libellés dans les législations nationales, mais qui n'auraient pas de valeur en droit international public. Et là, on aboutirait à un système complètement déséquilibré, où on aurait d'une certaine manière un protocole de Kyoto qui continuerait à exister d'une certaine manière, et à côté de ça, des engagements nationaux qui n'auraient valeur que d'engagements nationaux. Et dans ce cadre-là, fondamentalement, ça revient encore à mettre en cause le principe d'une gouvernance onusienne et multilatérale.
Et jugez-vous que la position de la France est claire en matière de changement climatique ?
Elle n'est pas plus claire que les autres pays, finalement. On a un président qui, pardonnez-moi cette expression, cette comparaison, fait beaucoup de vent, donc il prend sans doute les Français pour autant d'éoliennes, mais c'est pas l'agitation et le vent des paroles qui changent les choses. Il y a eu un Grenelle de l'environnement, c'est très bien, mais quand on voit le plan de relance qui a été proposé après le Grenelle de l'environnement, il tourne le dos aux principaux engagements du Grenelle de l'environnement. Le paquet climat-énergie, ce n'est que qui a été proposé par la France. Enfin, Jean-Jacques Barbieri se dira mieux que moi, ça n'est rien que du convenu, du conventionnel, et ça ne va pas, ce n'est pas ce qui fait faire un pas décisif à l'Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, il y a eu cette rencontre entre Lula, entre le président brésilien et le président français, où l'on vend cette rencontre, si je puis dire, comme décisive pour agir sur les autres pays, avec un président français qui dit « je vais faire le tour de la planète pour convaincre les autres pays ». Enfin, quand on regarde dans le détail l'accord entre le Brésil et la France, on voit pas de progrès manifeste, mais je pense que Jean-Jacques Barbieri va le dire mieux que moi.
J'aurais pas cette prétention, mais juste rappeler que concernant la position de la France, il faut bien se rappeler qu'on est dans un système où la France négocie en tant que membre de l'Union européenne, et que c'est l'Union européenne qui négocie pour ses États membres. Et ce qui peut d'ailleurs poser une vraie question sur l'avenir de cette négociation du point de vue européen, est-ce que, du fait même de l'adoption du paquet climat-énergie, comme le rappelait Noël Mamère, est-ce que maintenant, cette adoption n'emporte pas la compétence extérieure de la Commission en matière climatique, et est-ce qu'on n'aboutira pas dans les prochaines années à une situation où ça sera à la Commission européenne de négocier au nom de l'ensemble de la communauté, alors qu'à l'heure actuelle, on est dans un système où l'Union européenne peine parfois à avancer, puisqu'elle a besoin de se mettre d'abord d'accord en interne avant de donner mandat à la présidence pour qu'elle aille négocier dans ce cadre de négociation. Je pense que c'est une vraie question.
Et ce que dit Jean-Jacques Barbieri, c'est très intéressant parce que ça induit une structure politique de l'Europe. Les écologistes, depuis longtemps, on se bat pour une Europe fédérale. Comme le gouvernement américain est un gouvernement fédéral. Le jour où il y aura une Europe fédérale, peut-être que l'Europe sera beaucoup plus forte sur la question, entre autres, du bouleversement climatique. Car en effet, l'Europe ne peut pas être la conjugaison d'égoïsmes nationaux. Il doit y avoir une position commune. Et c'est à l'Europe de le faire, qui doit dépasser l'égoïsme des États. En plus, les normes juridiques européennes s'imposent aux normes juridiques internes.
Oui, justement, l'Union européenne est souvent présentée comme la région au monde qui est la plus performante en matière d'écologie. Est-ce que les mesures prises par l'Union européenne peuvent être utilisées comme armes diplomatiques lors du sommet ?
Oui, c'est vrai que la Chine est un pays pollueur. Enfin, quand on regarde par habitant les émissions de gaz à effet de serre, les chiffres changent. Hein, quand un Américain produit par année 18 tonnes de CO2, un Chinois en produit 2,5. Ça fait quand même une singulière différence. Il ne faut pas oublier que des pays comme la Chine et l'Inde, dont les efforts ont été reconnus récemment par Greenpeace, ont compris, malgré leur taux de croissance qui n'ont rien à voir avec les nôtres, qu'on ne peut pas continuer dans cette voie. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine ou en Inde qui sont bien plus en avance que ce que nous faisons en Europe. En même temps, c'est l'Europe. Un Européen, il produit 10 fois, il produit 10 tonnes. Quand un Chinois en produit 2,5. Donc les Européens, ils ont aussi beaucoup d'efforts à faire. Mais évidemment, il y a des pays d'Europe qui ont montré la voie. Je pense à la Suède, aux pays anglo-saxons. Mais il y a aussi des États, des États-Unis d'Amérique, qui montrent la voie depuis fort longtemps. Il faut que vous sachiez que, par exemple, en Californie, depuis des années, il y a en éolienne l'équivalent de 3 centrales nucléaires. Il faut savoir qu'en Autriche, pays où l'ensoleillement est beaucoup moindre qu'ici, on ne signe pas de permis de construire d'une maison qui n'a pas de chauffe-eau solaire.
En plus, il faut se méfier probablement de l'idée qu'on peut arriver avec des solutions un peu générales toutes faites. Il y a peut-être un exemple sur lequel l'Union européenne est la seule région du monde à avoir mis en place quelque chose, c'est si on se place dans la posture qui est assez particulière, hein, qui consiste à dire qu'on peut mettre en place des instruments économiques pour réduire les émissions, sachant qu'il y a tout un tas d'autres instruments qui sont tout aussi légitimes. Mais si on se place dans cette perspective-là, quand l'Union européenne vient défendre dans la négociation internationale l'idée de mettre en place des mécanismes de marché, marché du carbone, ce genre de choses, c'est la seule région, on va dire à l'heure actuelle, qui a démontré qu'un cas avec des difficultés dans le fonctionnement de ce marché sur lesquels on pourrait passer beaucoup de temps, que la mise en place de ce type de système existe et qu'on peut mettre les grandes entreprises polluantes sous quota et essayer de cette manière-là de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc après, l'idée qu'on pourrait imposer des modèles aux autres régions du monde, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que chacun prenne des engagements et après, personne n'a à venir remettre en cause la souveraineté des États. Par contre, il faut que les engagements en question soient contraignants au niveau international pour que le système fonctionne.
Une question plus économique. Dans une interview au Monde, accordée au Monde le 7 novembre, Monsieur Mamère, vous opposez le capitalisme vert à une conversion écologique de l'économie. Est-ce que vous pourriez expliciter ?
Le capitalisme vert, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la croissance verte. Le capitalisme est très plastique, donc il s'adapte. Donc aujourd'hui, vous avez des grandes sociétés qui sont des sociétés très, très attachées à la recherche du profit, qui ont compris l'intérêt qu'il y avait à s'engouffrer dans cette brèche que j'appellerais la brèche écologique, et qui vont essayer de s'enrichir sur l'écologie. Bon, en même temps, est-ce que c'est pas ça que nous réclamons? C'est pas une adaptation du capitalisme, même si je ne renie pas l'économie de marché, puisque les autres économies ont montré leurs limites. Mais ce que nous voulons, nous, c'est ce qu'on appelle la transformation écologique de l'économie et de la société. La transformation écologique de l'économie et de la société, ça veut dire qu'il ne faut plus rester basé sur les critères de la croissance, même verte, et qu'il faut s'orienter vers d'autres modes de vie, d'autres modes de consommation et d'autres modes de production. Par exemple, capitalisme vert. On vous dit, il y a la crise de la voiture, donc on va faire des voitures électriques. Mais on ne se pose pas la question de l'usage de la voiture. En 1967, un de mes maîtres à penser, si je peux en avoir, que personne ne connaît malheureusement, qui s'appelle Bernard Charbonneau, qui est un des pères fondateurs de la pensée écologique, a écrit un livre qui s'appelait « L'homme auto » chez De Noël. Et il expliquait qu'en croyant construire des voitures, on construit des sociétés. Il suffit de regarder nos villes, comment elles ont été adaptées à la voiture. Donc ce livre date de 1967, vous changez deux chevaux et des S. Alors, les voitures d'aujourd'hui, il n'y a pas une virgule à supprimer. Lisez ce texte d'André Gortz de 1973, également sur ce sujet. Donc ça veut dire que le problème n'est pas de résoudre la crise écologique par des solutions techniques, c'est de se reposer la question de l'usage, et c'est de se reposer la question de nos modes de vie et de nos modes de consommation, puisque nous savons très bien que les ressources, puisque les sociétés occidentales, sont basés sur l'exploitation des ressources et des matières premières. Or, on sait que les ressources et les matières premières sont épuisables. Donc, il faut trouver des solutions pour sortir de ce système très gaspilleur et très vorace. Surtout très vorace. Mais je ne suis pas le seul à répondre, hein. Allez-y.
Non, là-dessus, enfin, en économie, ce qu'on appelle aussi les effets d'hystérèse, hein, c'est-à-dire que aussi à force de consommer en effet un certain nombre d'un type de ressources, on aboutit à des effets sur l'environnement notamment, qui ne sont plus rattrapables ex post. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité, et il y a une forme d'illusion. Imaginez que le progrès technique à un moment peut permettre de réduire ça, puisque simplement souvent on n'a pas l'écart de temps nécessaire, c'est-à-dire le temps nécessaire à la recherche et développement qui permettrait d'éviter cet effet d'hystérèse, on ne l'a même pas. Donc ça, c'est un des vrais enjeux en économie environnementale à l'heure actuelle, c'est de voir comment on peut prendre les bonnes décisions de politique publique, notamment vis-à-vis de ce type de conclusions.
Et c'est par exemple plus important, et sans doute avec des effets moins pervers, de se lancer dans un grand plan de recherche de l'efficacité énergétique dans l'habitat. Ça a une double conséquence. C'est d'abord qu'on dépense moins d'énergie et qu'on réduit les charges locatives des locataires, notamment sur le volet énergie qui est très important. Et donc, on facilite la condition sociale des gens.
Et est-ce que l'économie verte n'est pas plutôt un ultime stade de développement que seuls les pays riches peuvent envisager, plutôt qu'un nouveau type de développement?
Comme le disent les pédants, le paradigme des pays pauvres, c'est notre modèle de société. Ce modèle de société a montré ses limites. Il devient caduque d'une certaine manière. Donc notre rôle, c'est d'essayer de contribuer à changer ce paradigme et d'aider les pays. Parce que tous ces pays, j'en parlerai tout à l'heure, on a une dette écologique et climatique vis-à-vis d'eux. Comment s'est construite la richesse des nations? Sur l'esclavage, l'exploitation des hommes, sur l'exploitation des ressources et des matières premières, par exemple. On vous explique que le nucléaire, c'est la solution. Il y a même certains qui vous disent que le nucléaire, c'est une énergie renouvelable. Mais Areva ne pourrait pas construire des centrales nucléaires s'il n'allait pas exploiter son uranium au Niger, en Afrique, soutenant un dictateur contre les Touaregs, par exemple. Donc ce sont des formes. Si l'on veut rembourser cette dette écologique, c'est pas en continuant la colonisation sous une autre forme. C'est en aidant ces pays à des mutations technologiques et surtout en aidant ces pays à pouvoir assurer leur souveraineté alimentaire, par exemple. J'en parlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, se réunit à Rome la FAO. Et le cri d'alarme qui est lancé par la FAO, c'est que la crise alimentaire qu'on a connue en 2008 pourrait se reproduire. Il y a un lien entre le bouleversement climatique et la crise alimentaire, et entre le système économique, où on a poussé des paysans, des petits paysans, on les a poussés à la ruine pour une raison très simple, c'est qu'on a favorisé avec l'OMC, avec le FMI, avec tous les grands organismes internationaux, on a favorisé les cultures d'exportation, donc les grandes exploitations qui non seulement tuent les petits paysans, mais en même temps tuent les sols avec l'utilisation massive de pesticides. Donc problèmes de santé. Alors il faut savoir que dans les pays pauvres, les familles consacrent 75% de leur budget pour se nourrir. Et qu'on assiste à ce paradoxe dans lequel ces pays dans lesquels il y a encore des millions de petits paysans n'arrivent même pas à se nourrir. Donc c'est la question de la souveraineté alimentaire.
Vous parliez du nucléaire tout à l'heure, mais des pays comme l'Allemagne négocient leur sortie définitive du nucléaire. Est-ce que la France devrait en faire autant? Et dans
oui,
ce cas,
bien
par
sûr.
Quoi substituer
qui représente c'est intéressant 80% parce que malgré l'électricité. C'est intéressant la question que vous posez, mais je vais pas obliger Jean-Jacques à faire le propre micro. La question que vous posez est intéressante parce que malgré les études que vous faites et votre niveau culturel, donc de capacité de clairvoyance, je constate une fois de plus la force de la propagande du lobby nucléaire. Parce que vous me dites par quoi on va remplacer le nucléaire. Mais il faut que vous sachiez que le nucléaire, ce n'est que 3% de l'énergie finale consommée dans le monde, 7% de l'énergie finale consommée en Europe et 17% de l'énergie finale consommée en France. Oui, c'est 85% de l'électricité. Donc, on pourrait multiplier par 10 ou par 100 le nombre de centrales nucléaires qu'il faudrait toujours lutter avec la même détermination contre l'effet de serre. Donc, le nucléaire n'est que pour une part de la consommation de l'énergie, de l'ensemble des énergies. Donc, remplacer le nucléaire, ça veut dire qu'il faut faire comme les Allemands, décider qu'on va mettre 30 ans pour en sortir et se donner sur ces 30 ans le temps de la recherche et développement pour travailler sur les trois piliers de la lutte contre l'effet de serre que sont la recherche de l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Mais c'est possible.
D'accord.
Mais Jean-Jacques, il va en dire plus.
Non, mais juste sur ce point, je pense qu'il faut aussi, c'est simplement se rappeler que... Enfin, moi, je suis très frappé qu'on focalise systématiquement le débat sur la réduction des émissions, sur la production énergétique. C'est-à-dire, en gros, c'est la question, il faut d'abord traiter les grands électriciens, etc. On est bien d'accord que c'est une grande part du problème et que s'il se construit une centrale thermique en Chine par semaine, ça pose définitivement un problème sur l'atténuation. Mais les gisements de réduction des émissions qui ont les coûts les plus faibles, et qui permettent des réductions d'émissions de masse, c'est d'abord dans les usages. Exemple, c'est exactement ce qu'on voit, l'exemple que prenait ma mère sur l'efficacité énergétique du bâtiment. Aujourd'hui, en France, c'est un enjeu absolument fondamental pour la France pour tenir ses objectifs de réduction des émissions à long terme, justement, de promouvoir des politiques d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ça se retrouve dans tous les pays. Enfin, par contre, c'est très compliqué à mettre en place. C'est difficile, parce que ce sont des émissions diffuses, sur lesquelles on peut difficilement appliquer des mécanismes de type taxe ou marché. Donc ça passe par d'autres politiques d'accompagnement. C'est différent. Mais il ne faut pas perdre de vue que les émissions de gaz à effet de serre qui viennent des usages des bâtiments, de l'agriculture notamment, ça représente des parts très significatives. Un gros enjeu de Copenhague, par exemple, ça va être la lutte contre la déforestation évitée. C'est un enjeu absolument fondamental si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les proportions qui sont attendues par le GIEC. Donc il ne faut pas uniquement focaliser sur les centrales thermiques. Ouais.
En France, l'habitat, c'est 40% des gaz à effet de serre. 40%.
Monsieur Mamère, vous qui êtes maire de Bègles, quelles sont les priorités écologiques que vous avez adoptées pour votre ville?
Oh, je ne pouvais pas en faire le bilan ici, mais oui, il y a plein. Oui, on a un agenda 21, un plan climat, et je me suis... j'ai fait plein de choses, oui, par exemple, des choses aussi bêtes que la gestion différenciée des massifs et des jardins. La suppression de milliers de fleurs. D'habitude, jusqu'à une période récente, on avait des massifs un peu partout dans toutes les villes avec beaucoup d'espèces de fleurs très consommatrices en eau. Donc maintenant, on fait ce qu'on appelle de la gestion différenciée. C'est favoriser les transports collectifs, donc faire venir le tramway dans Bègles. C'est à travers l'opération de renouvellement urbain, faciliter le parcours résidentiel pour tous en recherchant l'efficacité énergétique. je sais plus, j'ai fait plein de choses, mais je m'en souviens pas ici. C'est par exemple quand on refait la piscine de Bègles, installer ce qu'on appelle de la phytoremédiation, c'est-à-dire nettoyer le, supprimer le, manger le chlore par des plantes. C'est utiliser une gravière, c'est-à-dire ce qui est devenu un lac artificiel, pour en faire Bègles-Plage, et ce que j'appelle, développer ce que j'appelle le revenu en nature. C'est-à-dire permettre à des gens qui n'ont pas assez de moyens pour partir en vacances, bah, de prendre le bus et de venir à Bègles pour passer la journée à la plage. Leur offrir des lieux comme ça, comme, qui leur permettent de la détente et du loisir. Ça aussi, c'est de l'écologie. Et puis, c'est les jardins partagés, et puis c'est... pour les enfants, ce qu'on appelle les bus pédestres, et puis c'est surtout plus que ce qui se voit, c'est gérer surtout ce qui ne se voit pas.
Vous parliez du Grenelle l'environnement tout à l'heure, donc les thématiques écologiques semblent avoir été reprises par le Grenelle, donc par un gouvernement de droite. Mmh. Est-ce que l'écologie est devenue apolitique, ou dans la mesure où elle a quand même été longtemps l'apanage de la gauche ?
Oh non. L'écologie n'a pas été l'apanage de la gauche. La gauche est aussi productiviste que la droite. La gauche est encore, d'ailleurs, quand vous regardez une bonne partie une majorité, encore malheureusement très importante, d'élus socialistes, est encore inscrite dans le schéma des Trente Glorieuses, de la croissance, et considère que les écologistes sont là pour sous-traiter les questions d'environnement. C'est ce que je disais dans mon interview du Monde, c'est-à-dire que on a aujourd'hui les écologistes, on a un problème culturel avec la gauche, comme avec la droite, c'est pas pareil, c'est un problème politique, mais avec la gauche, on a un problème culturel. C'est-à-dire que ce problème culturel devient un problème politique parce qu'ils ne comprennent pas très bien que ce que porte l'écologie, c'est un projet de société et non pas simplement un des aspects de la crise. Et tant qu'il y aura pas cet agenda maintenant dans la tête des socialistes, ce sera difficile, mais l'écologie n'est pas ni de droite ni de gauche, elle n'est pas et à droite et à gauche. Pour moi, c'est une des nouvelles familles de la gauche, c'est-à-dire une nouvelle composante d'une gauche qui n'est pas la propriété du Parti communiste et du Parti socialiste, mais les valeurs que défend l'écologie sont des valeurs de gauche: la solidarité, le partage, la redistribution, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Vous savez, moi, je me sens autant à ma place quand je marie deux homos que quand j'arrache un pied d'OGM. Je suis écologiste dans les deux cas. Sur les questions des libertés et sur la question de la cartélisation de l'agriculture par quelques semenciers.
Et dans ce contexte, une union entre écologistes et socialistes est-elle envisageable ?
C'est pas parce que les écologistes ont décidé de partir en autonome au premier tour que pour autant ils sont des traîtres à la cause de la gauche. Je pense même que c'est nous qui allons insuffler la dynamique. Et que si la gauche perd moins de régions que prévu, ce sera sans doute grâce à nous. Il faut que le Parti Socialiste et la gauche traditionnelle revoient sa copie, ou ce que, pour employer une expression souvent utilisée par Nicolas Hulot, revoient son logiciel. Ça, c'est sûr.
Bah, merci, messieurs, de nous avoir accordé cette interview et bonne conférence.
Merci. Merci. Non, on en a déjà fait une partie avec vous.
Et maintenant, donc, la pause musicale avec La Vengeance de Jack du groupe Métropole.
Thank you. chopé le noir, il m'avait suivi. Devenu dingue, en usant mon flingue, la gâchette légère a crevé mes nerfs. La colle dans mes veines, n'est pas la peine. La vengeance en moi a guidé mes pas. Devenu dingue, en usant mon flingue, la gâchette légère a crevé mes nerfs. La colle dans mes veines, n'est pas la peine. La vengeance. Mes membres engourdis, à côté de moi, se trouvait une fille, couchée inconsciente, belle et meurtrie. En bout de pas, ils ne sont pas loin. Un dernier effort, je brise mes liens. La fille sur l'épaule. Je rejoins ma caisse. Derrière moi, les bandits se pressent. Dans le fracas des armes, ils se lancèrent. Une chasse mortelle, une poursuite d'enfer. Je pose la fin.